Le tout dernier film d'animation de Jean-François Laguioni, Louise en hiver, dont il est le réalisateur, le scénariste et le concepteur graphique, raconte l'histoire émouvante de Louise qui, à la fin de l'été qu'elle passe dans une station balnéaire, se retrouve coincée dans cette ville désertée. Elle a raté le dernier train qui doit la ramener vers la métropole. Malheureusement, surviennent les grandes marées d'équinoxe et la voilà coupée du monde et obligée de se débrouiller pour survivre. Elle va alors apprivoiser la solitude ainsi que les éléments naturels en se laissant submerger par les souvenirs et les fantômes de sa jeunesse. Louise en hiver fait suite à un autre long métrage tout aussi remarquable, Le Tableau, déjà proposé dans le cadre du Arras Film Festival en 2011, et prouve une nouvelle fois que Jean-François Laguioni est un formidable conteur d'histoires et un grand maître de l'univers graphique animé. Je l'ai rencontré juste après la présentation de son film au public pour évoquer avec lui le fameux destin de cette Madame Louise.
Film au public, Louise en hiver. Alors première question, comment ça s'est passé avec ce public?
Alors c'était vraiment intéressant parce que c'était un public de lycéens dont certains se préparent un petit peu au cinéma, donc j'avais des questions pas techniques mais un petit peu conceptuelles, donc j'étais ravi.
Cette Madame Louise, elle est quand même assez intéressante. Surtout le film, on a l'impression vraiment que c'est une histoire très très intime que vous racontez. Est-ce qu'il y a un petit peu de vous aussi là-dedans ?
Il y a nécessairement quelque chose de moi dans ce que j'écris, dans ce que je dessine. Mais je crois que dans ce film, j'ai laissé la porte un peu plus ouverte que d'habitude. Et puis, il y a des souvenirs d'enfance qui me sont revenus, qui sont à peu près les souvenirs de la petite Louise quand elle est petite fille et qu'elle est confiée à sa grand-mère. Je me suis dit, je parle beaucoup de choses que je ne connais pas, c'est quand même un peu prétentieux, je ferais bien une fois, pour une fois, de parler de ce que je connais un petit peu mieux. Bon, c'est pas pour autant que ce sont des souvenirs exacts et précis, hein. C'est des souvenirs qui renvoient, je pense, à des rapports que beaucoup de gens ont entretenus avec leur jeunesse.
Ce qui est intéressant également dans votre film, c'est qu'on perd toute notion du temps. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans cette histoire, et mis à part les saisons un peu qui rythment ce film, le temps, on a l'impression qu'on s'en fout. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en avant ?
Oui, mais c'est le rythme de la mer qui est toujours à peu près le même, qui a donc bercé le personnage. Mais quand vous parlez des saisons qui passent, les saisons, elles passent dans son calendrier, qui est d'ailleurs le calendrier des marées, etc., qui lui donne la position de la lune et des choses comme ça. Mais en fait, elles se trouvent de façon insensée dans un été sur une plage normande, apparemment normande, un été exceptionnel même en plein hiver. Donc elle va passer une vieillesse très ensoleillée. Ce qui met en valeur cette contradiction par rapport à la solitude dans laquelle le fait de rater son train l'a mise.
Quoi qu'il arrive, elle le prend avec une sérénité. Elle rate son train, c'est pas grave. Il n'y a plus d'électricité, c'est pas grave. Il n'y a plus personne, c'est pas grave. Elle trouve toujours une solution, en fait.
J'aime bien la façon dont vous résumez sa situation. C'est exactement ça, comme ça que je la souhaitais. Je suis content qu'elle soit perçue comme quelque chose. C'est pas les événements qui importent. C'est la façon dont elle va résister. C'est un film sur la résistance. C'est un film sur la... On parle beaucoup de résilience maintenant. Sur la façon de se défendre devant des situations dans lesquelles on vous a mis et qui ne vous sont pas, dont vous n'êtes pas responsable. Mais ce qui va lui permettre de partir sur des fausses pistes, sur des malentendus. En fait, elle n'a pas été vraiment abandonnée. Elle se croit abandonnée. Et puis, elle n'est pas abandonnée, parce que quand vous viviez au bord de la mer, je peux vous assurer que l'impression de la solitude est tout à fait relative. Il n'y a rien de plus vivant. C'est pour ça qu'elle abandonne sa petite maison, où là, elle se sentirait seule.
Je m'attendais à voir quelqu'un dimanche, mais personne n'est venu. Au fond, je ne suis pas fâché. Ils viendront plus tard. C'est drôle, les gens ont peur de tout maintenant. C'est pas la première fois qu'il y a une marée exceptionnelle. On n'en faisait pas toute une histoire. Je passe mon temps sur la plage, le sable est chaud, la mer est moins froide que moins tuyée. J'ai plus qu'à attendre. Il y aura bien des gens à Noël. Ne serait-ce que pour vérifier que leur maison tient encore debout.
Madame Louise, quand même, elle fait des choses parfois, hein, notamment la scène du grand magasin où elle casse la vitre pour aller chercher tout son matériel pour jouer un peu les Indiana Jones. Elle est un peu pirate aussi, elle se construit une petite maison au bord de la mer avec une sorte d'étendard. C'est quand même curieux et en même temps, c'est une sorte d'humour qui est très très doux.
Oui, elle balance un pavé dans la vitrine des nouvelles galeries, mais vous remarquerez qu'avant de balancer le pavé, elle jette un coup d'œil à gauche et à droite pour voir si quand même quelqu'un n'est pas là pour la voir. C'est vrai que j'avais besoin, quand même, pour rendre son aventure un peu plus vraisemblable, qu'elle puisse se fournir. C'est pas vraiment Robinson Crusoe, quoique Robinson Crusoe, il a quand même profité d'un navire qui s'est échoué sur les rochers. Donc, elle a tout à fait le nécessaire pour survivre, ce qui lui permet d'être complètement libre pour régler un certain nombre de problèmes qu'elle a avec ses souvenirs.
Oui, on profite en fait finalement de cette pseudo-solitude pour douter un peu, se poser des questions, retourner dans son passé. On sait qu'elle perd un peu la mémoire, mais c'est pas très important en fait finalement. L'important, c'est que tout au long du film, eh bien, ces flashbacks rythment un peu sa vie. Et finalement, à la fin du film, on arrive pratiquement à savoir tout de cette Madame Louise.
Mm-hmm. Oui, et puis on sent qu'on ne s'inquiète plus du tout pour elle à la fin du film. Elle a trouvé une sérénité, on la sent capable de surmonter n'importe quelle situation. Mais la voix du personnage à ce moment-là est essentielle, le choix de Dominique Froux, pour justement donner encore plus de force au personnage.
Oui, parce que justement, cette voix, c'est une voix rauque, un peu une voix de fumeuse, et elle nous berce, peut-être des fois elle nous berce même un peu trop.
Oui, alors, je voulais quelque chose de suffisamment puissant pour que ça puisse contrebalancer le son de la mer.
D'accord.
Parce que ce sont les deux voix principales du film. Et j'avais écouté bien des comédiennes qui correspondaient tout à fait au personnage, qui était un peu fragile au départ. Et quand j'ai entendu Dominique, j'ai dit, ben voilà, je suis en train de faire un contresens. Si elle doit prendre le dessus sur la mer et sur la solitude, il faut que cette voix représente une force particulière. Donc c'est ce qui s'est passé. Ça m'a même conduit à redessiner un petit peu le personnage, une fois que j'ai eu la voix, pour lui donner encore plus de poids.
En parlant de dessin, moi j'ai été assez émerveillé par la façon dont vous éclairez, Louise. J'aimerais bien que vous me parliez un peu de cette lumière sur ce personnage qui à chaque fois enveloppe de douceur en fait. Cette personne, et à n'importe quel moment de la journée, elle est toujours un peu baignée d'une lumière.
Alors voilà, ça c'était important parce que le personnage, s'il a une force en lui, il a une lumière qui doit irradier autour de lui. Et quand j'ai commencé par faire les décors à la gouache et à l'aquarelle, dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est un été qui dure, qui se prolonge même jusqu'au mois de février, même jusqu'au mois d'avril, avant qu'il y ait les premières pluies. Et c'est complètement invraisemblable. Mais je crois que c'est un peu ça dans mon travail, c'est que j'apporte toujours une dose de surréalité plus ou moins poétique, hein, ça dépend si c'est réussi ou pas, mais au moins il y a une intention dans ce sens-là.
C'est très réussi et c'est très poétique, notamment aussi au niveau des couleurs. Tous ces bleus, pastels, ces couleurs très douces, il n'y a pas vraiment de couleurs qui explosent. J'imagine évidemment que ces couleurs, vous les avez choisies aussi pour ce personnage et ce décorum.
Je suis content de voir que le spectateur se laisse aller et qu'il a même un petit peu de mal à quitter la salle. Heureusement, il y a un générique très long à la fin qui lui permet de reprendre ses esprits. Et comme si on avait du mal à abandonner à notre tour cette femme-là, c'est-à-dire qu'on se sent bien avec elle. Je me suis senti vraiment très bien en faisant ce film. C'est sans doute le film où j'ai eu le plus de plaisir, à, peut-être parce qu'il n'y avait qu'un seul personnage, à rentrer dedans, à être avec elle dans le moindre de ses gestes.
Je ne peux pas comprendre. Les animaux se fichent pas mal de la vieillesse.
Qu'est-ce que tu en sais, Louise?
Allons bon, elles parlent maintenant, les bêtes.
Les chiens, seulement. Pour les chats, c'était trop difficile. Ils ont abandonné les recherches.
Il y a deux scènes aussi que j'aimerais bien, dont on parle un petit peu, notamment ces scènes de rêves animés. La première qui arrive, quand justement elle se retrouve dans le lit, dans l'eau, ça m'a tout de suite fait penser à peut-être un clin d'œil à un peintre, mais son nom m'échappe.
Alors c'est forcément un peintre surréaliste, non ?
Oui, bah, je pense que c'est Magritte, voilà.
Oui, oh bah, ça fait partie de ma culture, de mon panthéon. Les peintres surréalistes, les flamands de cette époque. Voilà, j'ai découvert d'ailleurs en faisant ce film un peintre que je ne connaissais absolument pas, qui a peint les bords de mer dans les années 1910 par là, qui s'appelle Jean-René Auburtin. Et qui a peint les falaises comme personne ne les a peintes. C'est quelqu'un éblouissant, il faut le recommander à tout le monde.
Et puis il y a cette fameuse scène du tribunal, où il n'y a que des animaux. Et là, j'ai tout de suite pensé à un clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles, notamment avec cette fameuse voix qu'on lui coupe la tête. Donc, alors, est-ce que je me trompe ou c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir?
Oui, ben ça c'est un petit clin d'œil. Un petit rappel, en effet. Il y a des choses comme ça qui sont dans le domaine public, si je pourrais dire.
On va parler aussi un petit peu du personnage, Pépère, qui arrive à un moment donné, qui est aussi un peu le miroir, chaque personnage d'ailleurs, même dans le passé, c'est un peu le miroir de Louise. On se demande même à un moment donné, est-ce qu'il existe vraiment ?
Dans mon esprit, il existe, sauf qu'elle lui rajoute une voix, donc elle peut dialoguer avec elle. C'est important qu'elle ait quand même, qu'elle puisse se confier à quelqu'un. C'est en effet un miroir. Tout à l'heure, j'ai eu une question dans ce sens-là, où on m'a dit, mais est-ce que vous auriez pu vous en passer quand même ? Alors, je dis, oui, bien sûr, on peut se passer de beaucoup de choses. Le film aurait pu être encore plus apuré et avoir qu'un seul personnage. Je suis vraiment content d'avoir créé ce personnage. Il est important parce que la solitude, puisqu'on parle de la solitude, comme toute chose, c'est un problème de rapport. Et si on est totalement seul, il n'y a plus grand-chose à raconter. Alors que là, il y a la mer. On n'est jamais vraiment seul au bord de la mer. Et puis, il y a un chien. Voilà.
D'ailleurs, vous lui prêtez votre voix.
Oh, c'est une petite coquetterie de ma part.
Il y a aussi la musique, que je trouve assez intéressante. Hein. C'est Pierre Kellner au piano, et puis Pascal Le Pennec pour tout ce qui est orchestration. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette rencontre, comment vous avez travaillé ensemble ?
Alors, j'avais vraiment l'intention d'avoir deux musiques dans le film. une musique qui exprime le quotidien de Louise et qui soit très simple et complètement opposée à la partie de ses rêves, de ses souvenirs, de ses fantasmes. Donc j'ai travaillé comme ça avec un ami qui est pianiste de jazz, donc il a improvisé sur un piano solo. Et par contre, Pascal Le Pennec, qui avait fait la musique du tableau, mon film précédent, a composé une musique qui soit... Vous savez, quand je fais la maquette de mon film, je mets toujours une musique provisoire. Et j'avais mis une pièce de Claude Debussy qui correspondait parfaitement à ça. Les aventures de Louise dans le bois, dans le creux des falaises. Donc il s'est inspiré de cette musique. Il a commencé par râler parce qu'il disait « Bon, bah, Debussy, c'est très bien, mais moi je suis Le Pennec. » Et puis, il a fini par me dire que, comme dans le tableau, où j'avais procédé de la même façon avec lui, il a fini par me dire que ça l'aidait beaucoup, que je lui indiquais un chemin sentimental. La musique dans mes films est très importante. Et je la mets vraiment en parallèle avec la couleur. Je travaille sur le traitement de la couleur, séquence par séquence, de la même façon que je travaille sur le plan musical. Parce que qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des choses qui ne sont pas très rationnelles, mais qui vous pénètrent, hein, et qu'on n'explique pas beaucoup. Et pourquoi on est ému souvent dans un film? Ben, c'est souvent pour le son.
Le processus a été long pour faire ce film?
C'est toujours trop long, ça coûte trop cher, c'est trop long, bien sûr. On aimerait filmer comme on écrit ou comme on dessine. Mais j'ai fait des films plus longs que ça. C'est-à-dire, ça a dû s'étaler sur 3 ou 4 ans, même peut-être 4 ans. Mais il faut dire que dans ce temps, il y a tout le temps de ce que j'appelle mon écriture filmique, où je suis seul pendant un an à faire la maquette de mon film avec des petits dessins que je sonorise, etc. Voilà.
Ma dernière question, ce n'en est pas vraiment une, mais j'aime bien l'idée. La petite pancarte qu'elle met sur la porte, que je trouve très intéressante, où elle dit je ne suis pas là, au secours. Et elle l'a barrée, en fait. Ouais. Je suis à la plage.
Oui, j'aime bien. La pancarte pourrait résumer le film.
Les rêves que je fais depuis quelques jours, est-ce que ce sont mes souvenirs? Ça vient comme de petites vagues mystérieuses. C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important.
C'était un entretien avec Jean-François Laguillonni, réalisateur du long métrage d'animation Louise en hiver, une interview réalisée lors de la 17e édition du Arras Film Festival. Le film est sur les écrans français depuis le 23 novembre.